Ivan s'arrêta. Il s'était exalté en parlant, et tout à coup il éclata de rire. Alyosha avait écouté sérieusement, avec une émotion extrême. Plusieurs fois il avait voulu interrompre son frère et s'était retenu. « Mais c'est un non-sens. Ton poème est la louange et non pas la condamnation de Jésus. Qui croira ce que tu dis à propos de la liberté ? Est-ce ainsi qu'il faut la comprendre ? Est-ce la doctrine de l'Église orthodoxe ? Rome peut-être et encore, les pires des catholiques, les inquisiteurs, les jésuites. D'ailleurs, quel personnage fantastique ton inquisiteur ! Quels sont ces péchés assumés pour les autres hommes ? Quels sont ces dépositaires de mystères qui prennent pour eux l'anathème et laissent le bonheur à l'humanité ? Quand a-t-on vu cela ? Nous connaissons les jésuites, on en dit du mal. Mais sont-ils ce que tu dis, nullement ? C'est l'armée avec laquelle Rome pense à servir le monde, au commandement impérial du pape, voilà leur idéal. Il n'y a là aucun mystère, aucune haute tristesse. Le plus simple désir de régner, la plus vile soif de bonheur terrestre, une sorte de servage futur, avec ceci de particulier, qu'ils seront, eux, les pomitschiks, voilà tout. Ils ne croient peut-être pas en Dieu, mais ton inquisiteur est de fantaisie. « Arrête, arrête !» dit en riant Ivan. « Oh, comme tu t'échauffes !» « De fantaisie, dis-tu, soit des certes. Pourtant, crois-tu donc vraiment que tous ces mouvements catholiques des derniers siècles ne constituent qu'un effort d'asservissement terrestre ? N'as-tu pas pris cette croyance au père Païssy ? Ah non, 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 au contraire, le père Païssy a parlé une fois dans ton sens. Enfin, du moins, certes, pas du tout la même chose, se reprit Alyosha. Oh, c'est un précieux renseignement, malgré tout, ton pas du tout la même chose. Mais pourquoi les jésuites et les inquisiteurs se seraient-ils unis seulement pour le bonheur matériel ? Ne peut-il se rencontrer parmi eux un seul martyr, capable de nobles et grandes souffrances et qui aimerait l'humanité ? Suppose qu'il s'en rencontre un seul, dans le genre de mon vieil inquisiteur, qui a vécu de racines dans le désert et s'est obstiné à vaincre ses sens pour se rendre libre, pour s'élever jusqu'à la perfection. Pourtant, il a toujours aimé l'humanité. Et tout à coup, il voit clair, il comprend qu'il pourrait, lui, atteindre au bonheur céleste, mais... Et les autres millions d'humains ? Ils resteront à jamais mal équilibrés, trop faibles pour se servir de leur liberté. Ils se révolteront. Mais jamais les pauvres âmes ne pourront terminer leur tour, et ce n'est pas pour de telles oies que le grand idéaliste a rêvé son harmonie. Voilà pourquoi mon inquisiteur revient sur ses pas et se rallie aux hommes intelligents. Ne peux-tu comprendre cela ? Mais à qui se rallier ? À quels hommes intelligents ? Ils n'ont aucune intelligence, aucun mystère. L'athéisme, voilà leur secret. Ton inquisiteur ne croit pas en Dieu. Eh bien, et puis ? Ah, tu y es enfin ! Et en effet, l'athéisme, voilà son secret. Mais quelle souffrance, même pour un homme comme lui, qui a consumé sa vie en sacrifice dans le désert, et qui n'a pas pu se défaire de son amour pour l'humanité. Au déclin de ses jours, il se convainc clairement que seul le conseil du grand et terrible esprit pourrait, au moins dans une certaine mesure, établir un ordre acceptable pour les débiles révoltés, à ces êtres avortés, ces dérisions vivantes. Que si l'on parvient à se convaincre que l'esprit a indiqué la vraie voie, ce terrible esprit de mort et de ruine, il faut accepter dès lors le mensonge pour toute vérité, l'hypocrisie pour toute règle de conduite, et mener les hommes en connaissance de cause vers la mort et la ruine en les trompant sur toute la route, parce que ces piteux aveugles ne voient pas où les mènent, où on les mène et se croient heureux. Remarque-le, mon vieillard ment au nom de celui en qui, pourtant, il avait cru si ardemment pendant toute une vie. N'est-ce pas là une souffrance noble et grande? Mais qu'un seul homme tel que lui soit à la tête de cette armée qui ne veut que le pouvoir et le bonheur terrestre, n'est-ce pas assez pour une tragédie? Non, je te parle franchement, je crois que mon inquisiteur se reproduit toujours parmi ceux qui sont à la tête du mouvement. Qui sait? Peut-être y en avait-il parmi les premiers évêques de Rome. Qui sait? Peut-être ce maudit vieillard qui, à sa façon, aime si obstinément l'humanité, est-il perpétué et maintenant encore représenté par quelqu'un de ces grands vieillards qui conservent le mystère et le gardent contre les malheureux, les faibles, afin de les rendre heureux? Cela nécessairement, et cela doit être. Il me semble même que chez les francs-maçons, il y a quelques mystères de ce genre. Et c'est pourquoi les catholiques haïssent tant les francs-maçons. Ils voient en ces sociétés secrètes une concurrence et la dissémination de l'idée unique, tandis qu'il ne faut qu'un seul troupeau sous un seul pasteur. D'ailleurs, en défendant ma pensée, j'ai l'air d'un écrivain inférieur à tes critiques. Allez, assez là-dessus. Mais tu es peut-être toi-même un franc-maçon ? S'écria tout à coup Yosha. Tu ne crois pas en Dieu, ajouta-t-il avec une profonde tristesse. Il lui semblait lire de l'ironie dans le regard de son frère. Et comment finit ton poème? Reprit-il en baissant les yeux. Finit-il là? Oui, je voulais le finir ainsi. L'inquisiteur se tait. Il attend pendant quelques instants la réponse du prisonnier. Le silence lui est pénible. Le prisonnier l'a constamment écouté en le regardant bien en face, avec un doux et fixe regard, évidemment décidé à ne rien répondre. Le vieillard voudrait entendre de son prisonnier une parole, fût-ce la plus amère, la plus terrible. Et voilà que le prisonnier s'approche en silence du vieillard et baisse doucement les lèvres exsangues du nonagénaire. C'est toute la réponse. Le vieillard tressaille, ses lèvres tremblent. Il va à la porte, l'ouvre et dit « Va-t'en, ne reviens plus! Ne reviens plus jamais, jamais !» Et il le laisse sortir dans les ténèbres de la ville. Le prisonnier s'en va. Et le vieillard? Oh, le baiser brûle son cœur, mais il garde sa conviction. Et toi aussi, tu restes avec lui, s'écria amèrement Alyosha. Ivan se mit à rire. Mais quelle bêtise, Alyosha! C'est un poème dénué de sens, l'ouvrage d'un inexpérimenté. Pourquoi le prendre au sérieux? Penses-tu que je vais chez les jésuites me mettre à l'unisson avec ceux qui corrigent son œuvre? Bon Dieu, cela me regarde-t-il? Je te l'ai déjà dit, que j'aille jusqu'à 30 ans, et puis je briserai mon verre. Et les petites feuilles printanières, et les tombeaux vénérables, et le ciel bleu, et la femme aimée, et comment vivras-tu? Qu'aimeras-tu donc? Mais comment vivre avec tant d'enfer au cœur et dans la tête? Oui, oh, tu vas les rejoindre ou bien te tuer. Oh, il y a pourtant en moi une force qui pourra me retenir, dit Ivan avec un froid sourire. Laquelle? Celle des Karamazov, la force que les Karamazov doivent à la bassesse de leur nature. Ah oui, c'est-à-dire la débauche, étouffer l'âme dans la boue, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Soit, oui, peut-être y échapperai-je, jusqu'à 30 ans, mais ensuite... Mais comment pourras-tu y échapper? C'est impossible avec tes idées. Hé, toujours en Karamazov. Tout est permis, n'est-ce pas? Ivan fronça le sourcil et pâlit. Tu as saisi au vol hier ce mot dont Missiov s'est tant offensé. et que Dmitri a si naïvement répété. Soit, tout est permis, je ne me rétracte pas. D'ailleurs, la formule de Minirdka est assez bonne. Alyosha le considérait en silence. Je pensais, tout en faisant mes préparatifs de départ, que je n'ai que toi au monde, reprit Ivan d'une voix profonde. Mais je vois maintenant que dans ton cœur non plus il n'y a pas de place pour moi, mon cher novice. Je ne renie pas la formule de Dimitri, et c'est pour cela que tu me renies, toi, n'est-ce pas? Alyosha vint à lui et le baisa doucement sur les lèvres. C'est un plagiat, s'écria Ivan transporté. Tu as pris cela dans mon poème. Je te remercie pourtant. Allez, maintenant partons, il est temps pour toi et pour moi. Ils sortirent. Sur le perron, ils s'arrêtèrent. Écoute, Alyosha, dit Ivan d'une voix ferme. Si j'ai la force d'aimer encore les feuilles du printemps, je ne le devrai qu'à ton souvenir. Il me suffira de savoir que tu es ici, quelque part, pour aimer encore la vie. Si tu veux, prends cela pour une déclaration d'amitié. Adieu. Voici ton chemin, voilà le mien. Assez, entends-tu, assez. C'est-à-dire que, même si je ne partais pas demain, ce qui est impossible, même si nous devions nous rencontrer encore, allez, plus un mot au sujet de ces choses, je t'en prie expressément. Ne parlons plus de Dmitri, non plus, jamais. Je te le demande, jamais, répéta-t-il avec irritation. Tout est dit, tout est fini. De mon côté, je te promets que lorsque la 30e année sera venue, lorsque sonnera l'heure de jeter la coupe, je viendrai te parler encore, où que je sois, fût-ce en Amérique. D'ailleurs, j'aurai un grand intérêt à te revoir alors. C'est une promesse solennelle. Nous nous disons adieu pour 7, pour 10 ans peut-être. Va chez ton pater Seraphicus. Il se meurt, je crois, allez, tu m'en voudras s'il voudrait te revoir. Adieu. Embrasse-moi encore une fois, et maintenant, va-t'en. Ivan se détourna brusquement et partit sans regarder en arrière. Ce départ ressemblait à celui de Dmitri. Cette observation passa comme une flèche dans l'esprit attristé d'Alyosha. Il suivit quelques instants du regard son frère. Tout à coup, il remarqua qu'Ivan marchait en se dandinant et qu'il avait l'épaule gauche plus haute que la droite. Alyosha fit demi-tour et s'en alla presque en courant au monastère. La nuit tombait. Alyosha se sentait rempli d'inquiétude, c'était comme un pressentiment. Un souffle s'éleva et les sapins centenaires se balançaient, mornes autour de lui, quand il entra dans la forêt qui conduit au monastère. Il courait toujours. « Pater Seraphicus, où a-t-il pris cela ?»« Ivan, pauvre Ivan, quand te reverrai-je » Ah, voici le monastère, Seigneur. Oui, c'est lui. Oh, c'est le pater Seraphicus qui me sauvera. Plusieurs fois, dans la suite, il se demanda comment il avait pu, en quittant Ivan, oublier si complètement Dmitri. Car ne s'était-il pas promis, quelques heures auparavant, de le revoir, quand bien même il lui faudrait ne pas retourner avant la nuit au monastère. Ivan Fedorovitch se dirigea vers la maison de son père. Une sorte d'alanguissement insupportable l'envahissait et augmentait à chaque pas. Ce n'était pas la sensation elle-même qui l'étonnait, mais c'était de ne pouvoir la définir. Il essaya de ne pas penser, mais rien n'y fit. Ce qui l'irritait le plus, c'est que cet état singulier était extérieur à son âme. Il le sentait. Un être, un objet se dessinait devant lui, comme il arrive parfois que quelque chose se dresse devant les yeux, devant une conversation animée, quelque chose dont on s'irrite sans en avoir conscience et qu'on ne remarque qu'au moment où on l'écarte, comme par exemple un objet qui n'est pas à sa place, un mouchoir tombé à terre, un livre qui manque à son rayon, etc. Enfin, Ivan Fiodorovitch, de plus en plus irrité, parvint à la maison paternelle, à 15 pas de la petite porte. Il leva les yeux et devina seulement alors le motif de son inquiétude. Sur un banc, près de la porte cochère, Smerdiakov était assis, prenant le frais. Ivan Fiodorovitch comprit aussitôt que c'était lui, ce Smerdiakov, qui était assis dans son âme. « Ce misérable vaut-il donc la peine que je m'inquiète tant de lui ?» pensa-t-il avec rage. En effet, depuis quelque temps, il avait pris en grippe Smerdiakov. Peut-être cette sorte de haine n'était-elle devenue si aiguë que parce qu'elle succédait à une sorte de sympathie. Il l'avait d'abord trouvé très original et il causait volontiers avec lui. Étonné de cet esprit inquiet, sans comprendre le motif de cette inquiétude. La question de Smerdiakov, mais comment la lumière a-t-elle été créée que le quatrième jour, puisque les étoiles datent du premier ? Égayait Ivan. Mais il s'était bientôt convaincu que Smerdiakov ne pensait pas uniquement aux étoiles et qu'il lui fallait autre chose. On devinait en lui un amour-propre blessé. C'est ce qui commença à éloigner Ivan. Puis survinrent les événements que nous avons décrits. Smerdiakov en parlait parfois avec animation, mais sans jamais dire ce qu'il désirait pour lui-même. Il questionnait, il faisait des allusions, mais ne s'expliquait jamais et s'interrompait toujours au moment le plus animé. Ce qui exaspérait Ivan, c'était la familiarité croissante que Smerdiakov lui témoignait. Non pas qu'il fût impoli, au contraire, mais il s'était établi une façon de solidarité entre Ivan et Smerdiakov, comme s'ils avaient conclu un pacte ignoré des autres mortels. Toutefois, Ivan avait été longtemps sans comprendre la vraie cause de son dégoût. Il ne l'avait deviné que dans les tout derniers temps. Il voulut d'abord passer sans rien dire à Smerdiakov. Mais celui-ci s'était déjà levé et lui faisait comprendre par signe qu'il avait quelque chose de particulier à lui dire. Ivan Fiodorovitch s'arrêta, le considéra, et le fait de s'être arrêté au lieu de passer comme il aurait voulu le faire le bouleversa. Il jeta un regard irrité sur la figure du Skopets. L'œil gauche de Smerdiakov souriait, semblant lui dire « Pourquoi t'arrêtes-tu ? C'est que tu sais bien que nous avons, nous autres, des intérêts communs. »« Me débarrasse le chemin, misérable, qu'y a-t-il de commun entre nous ?» pensait Ivan. Tandis que, à son propre étonnement, il dit tout au contraire et d'une voix douce comme soumise « Est-ce que mon père dort déjà ?» Mais ce qu'il n'eût pu prévoir, c'est qu'il s'assit sur le banc. Il se rappela par la suite qu'il avait à ce moment tressailli d'effroi. Smerdiakov se tenait debout en face de lui, les mains au dos, et le regardant avec assurance, presque avec sérénité, « Où il dort ?» dit-il sans se presser. « Je m'étonne de vous voir, monsieur, » ajouta-t-il après un silence, en affectant de baisser les yeux et en jouant avec le gravier du bout de l'un de ses pieds chaussés de bottines vernies. « Qu'est-ce qui t'étonne ?» demanda sèchement Ivan Fiodorovitch en s'efforçant de se contenir. Il s'avouait avec dégoût qu'il était très curieux de connaître la pensée de Smerdiakov et qu'il ne s'en irait pour rien au monde avant d'avoir satisfait sa curiosité. « Pourquoi n'allez-vous pas à Tchermachnia ?» dit Smerdiakov avec un sourire familier. « Pourquoi je souris ? Oh, tu dois le comprendre, si tu es un homme d'esprit, » disait son œil gauche. « Pourquoi je ne vais pas à Tchermachnia ? Fiodor Pavlovitch, vous en a-t-on prié? Reprit Smerdiakov après un nouveau silence. Non, que diable, parlons plus clairement. Que veux-tu? S'écria Ivan Fiodorovitch avec emportement. Smerdiakov changea de pied, se redressa et continua à regarder Ivan avec son éternel sourire. Oh, rien de particulier, c'était pour parler. Nouveau silence. Ivan Fiodorovitch se rendait très bien compte qu'il aurait dû se lever et se fâcher. Mais le silence de Smerdiakov semblait précisément dire « Voyons, vas-tu te fâcher ?» Enfin, Ivan fit un mouvement pour se lever. Smerdiakov soupira et se hâta de reprendre d'un ton ferme. « Une terrible situation que la mienne, Ivan Fiodorovitch. Je ne sais que faire. » Ivan Fiodorovitch se rassit. Ils sont comme deux enfants. Or, je parle de votre père et de votre frère Dmitri Fiodorovitch. Fyodor Pavlovitch va se lever et me demander « N'est-elle pas venue? Pourquoi n'est-elle pas venue ?» Et ainsi, jusqu'à minuit passé. Et si Agrafena Alexandrovna ne vient pas, elle n'a peut-être même pas l'intention, il recommencera demain. Pourquoi n'est-elle pas venue? Quand viendra-t-elle? Comme si c'était de ma faute. Et de l'autre côté, dès que la nuit tombe, votre frère arrive armé. Regarde, misérable garçon, si tu la laisses passer sans m'avertir, c'est toi que je tuerai le premier. Et tous les jours de même, parfois je crains pour ma vie. Mais pourquoi t'es-tu fourré là-dedans? Pourquoi as-tu commencé à te faire l'espion de Dmitri? Comment faire autrement? Je me taisais, je ne disais rien. C'est lui-même qui m'a mis dans ses confidences et depuis il me menace de mort. Je suis sûr que demain j'aurai une crise, une longue crise. Quelle crise? Une longue, très longue crise. Elle durera peut-être plusieurs heures, peut-être un jour, peut-être deux. Une fois, elle a duré 3 jours. 3 jours sans connaissance. Fyodor Pavlovitch a envoyé chercher Selstube. Il m'a fait mettre de la glace sur la tête. J'ai failli mourir. Mais on dit qu'il est impossible de prévoir les crises d'épilepsie. Comment peux-tu donc savoir que ce sera demain? Demanda Ivan Fiodorovitch avec une curiosité mêlée de colère. C'est vrai, oui. Mais cette crise n'a été si longue que parce que tu étais cette fois tombé du grenier. Mais j'y monte tous les jours, je peux donc en tomber demain. Et si ce n'est pas au grenier, je tomberai à la cave. J'y vais aussi tous les jours. Tu baragouines là quelque chose que je ne puis comprendre, dit Ivan à voix basse, sur un ton menaçant. N'as-tu pas l'intention de feindre une crise pour 3 jours? Smerdiakov, qui regardait la terre et jouait du bout du pied droit, changea encore de pied, leva la tête et dit en souriant si je pouvais feindre, c'est pas difficile quand on en a l'expérience. J'aurais bien le droit d'employer ce moyen pour sauver ma vie, car une fois malade, même si Agrafena Alexandrovna venait, on ne pourrait me reprocher de n'avoir pas averti. Que diable, tu crains toujours pour ta vie. Les paroles de Dmitri ne sont que les paroles d'un homme emporté, rien de plus. Il ne te tuera pas, il ne te tuera pas. Il me tuerait comme une mouche, très bien, avant les autres. Je crains davantage encore qu'on m'accuse de complicité s'il faisait quelque bêtise à son père. Et pourquoi t'accuserait-on de complicité? Parce que je lui ai fait savoir en secret les signaux. Oh, quels signaux? Que le diable t'emporte, parle donc clairement. Je dois avouer, traîna Smerdiakov avec une tranquillité pédantesque, qu'il y a un secret entre moi et Fyodor Pavlovitch. Depuis quelques jours, vous savez cela, il s'enferme à l'intérieur dès que la nuit tombe. Vous rentrez de bonne heure, vous montez chez vous, et vous ne savez peut-être pas avec quel soin il se barricade pour la nuit. Grigory lui-même ne pouvait se faire ouvrir qu'en faisant reconnaître sa voix. Mais Grigory ne vient pas, c'est moi maintenant qui sers Fiodor Pavlovitch. Donc, il s'enferme, et moi, d'après ses ordres, je passe la nuit à l'office. Il m'est défendu de m'endormir avant minuit. Il faut que je surveille ce qui se passe dans la cour, pour voir si Agrafiana Alexandrovna ne vient pas, car Fiodor Pavlovitch est fou d'attente. Dès qu'elle viendra, on court et frappe à la porte ou à la fenêtre avec la main, enfin doucement, les deux premières fois, puis trois fois plus vite. Toc, 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 allez, j'ouvrirai. Et nous avons un autre signal pour les cas extraordinaires. Deux fois vite, toc, toc, puis après un silence, une fois fort. Si donc Agrafiana Alexandrovna venait, et si elle était enfermée avec Fiodor Pavlovitch, il faudrait absolument, au cas où Dmitri Fiodorovitch arriverait alors, donner le signal que Fiodor Pavlovitch croit connu de lui et de moi seulement. Or, ce signal, il est connu aussi de Dmitri Fiodorovitch. Pourquoi ? C'est lui qui le lui a appris. Comment as-tu osé ? Parce que j'ai peur de lui, et pour qu'il sache que je ne le trompe pas. Eh bien, si tu penses qu'il veuille entrer en se servant de ce signal, empêche-le. Et si j'ai ma crise, en admettant que j'ose l'empêcher, car il est si violent, que le diable t'emporte. Mais pourquoi es-tu si sûr que tu auras ta crise demain? Tu te moques de moi. Oh, comment oserais-je me moquer de vous? Est-ce le moment de rire? Oh, j'ai un pressentiment, voilà tout. Ben, si tu es couché, c'est Grigory qui veillera. Préviens-le, il ne laissera pas entrer. Mais je n'ose pas dire à Grigory ce secret sans la permission du marine. Et puis Grigory est malade et Marfa Ignatievna lui prépare sa potion, un très ancien remède, une sorte de liqueur dont elle a le secret, très forte, faite d'une herbe inconnue. Elle le donne ce remède à Grigory trois fois par an. Elle prend une serviette, l'imprègne de cette liqueur, et lui frictionne le dos pendant une demi-heure, jusqu'à ce qu'il en ait la peau rougie et même gonflée. Et ce qui reste dans le verre, elle le lui fait boire, tout en priant pour lui. Elle en prend elle-même un peu. Et tous deux, en gens qui ne boivent jamais, tombent sur place et s'endorment pour très longtemps. À le réveil, Grigory est rétabli et Marfa Ignatievna a mal à la tête. Donc, si demain Marfa Ignatievna donne ce remède à Grigory, il ne pourra entendre Dmitri Fiodorovitch et le laisseront entrer, parce qu'ils dormiront. Mais oh, que chantes-tu là? Tout cela semble arrangé comme exprès. Toi, tu auras ta crise, les deux autres seront sans connaissance. Est-ce que tu ne désires pas, au fond? Ivan fronça les sourcils. Comment aurais-je pu arrêter ça? Tout dépend de Dmitri Fiodorovitch seul. S'il veut agir, il agira. Sinon, j'irai pas le chercher pour le pousser chez son père. Mais pourquoi viendrait-il si Agrafiana Alexandrovna, comme tu le dis toi-même, ne vient pas? S'écria Fiodorovitch, pâle de colère. Tu dis toi-même que cette femme ne viendra pas chez lui. Et moi j'ai toujours considéré comme imaginaire les espérances du vieux. Pourquoi donc Dmitri viendrait-il? Parle, je veux connaître le fond de ta pensée. Mais vous pouvez pas comprendre vous-même pourquoi il viendra. À quoi bon ici ma pensée? Il viendra par méchanceté ou par défiance. Précisément parce que je serai malade, il viendra pour voir par lui-même. Puis il sait très bien que Fiodor Pavlovitch a un paquet de 3 000 roubles tout près, un paquet scellé de 3 sceaux, noué d'un petit ruban où il est écrit de sa propre main « Pour mon ange Grushenka, si elle veut venir ». Et 3 jours après, il a ajouté « Pour mon petit poulet ». « Quelles inepties !» cria Ivan Fiodorovitch hors de lui. « Dmitri ne tuera pas son père pour le voler. Il aurait pu le tuer hier quand il cherchait Grushenka chez lui. Il est fou, oui, mais il ne volera pas. Il a besoin d'argent, un extrême besoin, Ivan Fiodorovitch. Vous ne pouvez savoir à quel point il en a besoin, » dit tranquillement Smerdiakov. D'ailleurs, il considère ses 3 000 roubles comme sa propriété. Si Agrafiana Alexandrovna y consent, Fiodor Pavlovitch l'épousera. Son amant, le marchand Samsonov, lui dirait que ce serait pas bête. Mais certes, elle préférera le père au fils qui n'a pas l'argent. Donc, si Fiodor Pavlovitch épouse Agrafiana Alexandrovna, ni à Dimitri, ni à Fedorovitch, ni à vous, ni à Alexei Fedorovitch, il ne restera 1 rouble à la mort de votre père. Et si au contraire votre père meurt maintenant, rien de tout cela n'arrivera. Vous aurez chacun 40 000 roubles tout de suite, puisqu'il n'a pas encore fait son testament. Dmitri Fedorovitch sait tout cela pertinemment. Le visage d'Ivan Fiodorovitch se contracta. Il rougit. « Pourquoi donc me conseilles-tu de partir? Que veux-tu dire par là? Quand je serai parti ici, chez nous, il se passera quelque chose. » Il haletait. « Parfaitement, » dit d'un ton posé Smerdiakov, en regardant fixement Ivan Fiodorovitch. « Comment parfaitement ?» dit Ivan Fiodorovitch, faisant effort pour se contenir et les yeux pleins de menaces. « Ben, c'est par pitié pour vous que je dis cela. Moi, à votre place, j'abandonnerai tout, » répondit Smerdiakov avec désinvolture. Un silence. « Tu m'as l'air d'être un fameux idiot, et certainement... « Tu es le dernier des misérables. » Il se leva, fit quelques pas. Mais tout à coup, il s'arrêta et revint à Smerdiakov. Alors, se passa quelque chose d'étrange. Ivan Fiodorovitch se mordit les lèvres, serra les poings et peu s'en fallut qu'il se jeta sur Smerdiakov. L'autre s'en aperçut, tressaillit et fit un bond en arrière. Mais Ivan Fiodorovitch se dirigeait déjà vers la porte. « Je pars demain pour Moscou, si tu veux le savoir, au point du jour. Voilà tout !» cria-t-il avec rage. Et par la suite, il s'étonna d'avoir dit cela à Smerdiakov. C'est ce que vous avez de mieux à faire, repartit l'autre, comme s'il ne trouvait rien de surprenant dans le langage d'Ivan. Seulement, peut-être pourrait-on vous rappeler de Moscou ici par télégramme, dans un cas extraordinaire. » Ivan Fiodorovitch se retourna de nouveau vers Smerdiakov. Un changement soudain s'était produit en lui. Toute sa nonchalante familiarité avait disparu. Tout son visage exprimait une attente et une attention extrême et comme soumise. « N'ajouteras-tu rien ?» lisait-on dans son regard qui dévorait Ivan Fiodorovitch. Et de Tchervachnia ne pourrait-on m'appeler aussi dans quelque cas extraordinaire ?» hurla Ivan Fiodorovitch. « Ben, Tchervachnia aussi, on pourra vous inquiéter !» murmura Smerdiakov à demi-voix, sans cesser de regarder Ivan dans les yeux. Seulement, Moscou est loin et Tchervachnia est près. Est-ce pour économiser l'argent du voyage que tu as si de temps pour le Tchermachnia? Ou me plains-tu d'avoir à faire un trop grand détour? Justement, murmura Smerdiakov d'une voix hésitante, avec un sourire vil, et en se disposant à se rejeter de nouveau en arrière. Mais au grand étonnement de Smerdiakov, Ivan Fiodorovitch éclata de rire. Il avait déjà franchi le seuil, et Smerdiakov l'entendait encore. Celui qui l'aurait vu en cet instant n'aurait pas pris ce rire pour un signe de joie. Mais lui-même n'aurait pu expliquer ce qu'il sentait. Il marchait machinalement. Il parlait d'eux-mêmes. Rencontrant Fiodor Pavlovitch dans le salon, il lui cria aussitôt « Je vais chez moi et non pas chez vous. Au revoir !» Et il passa sans même regarder son père. Peut-être s'exarrêtait-il en ce moment son dégoût pour le vieux et ne s'en cachait-il pas assez. Cette insolence étonna Fiodor Pavlovitch lui-même. Il avait pourtant quelque chose de très pressé à dire à son fils et l'attendait même à cet effet. Mais ainsi repoussé, il se tut et le suivit d'un regard ironique jusqu'à ce qu'Ivan eût disparu. « Qu'y a-t-il donc ?» demanda-t-il vivement à Smerdiakov, qui venait d'entrer. « Ben, il est fâché, qui peut savoir pourquoi ?» répondit évasivement Smerdiakov. « Oh, diable, sa fâcherie, allez, donne le samovar et va-t'en, rien neuf ?» Et les questions dont Smerdiakov se plaignait recommencèrent. Quelques minutes après, toute la maison était fermée. Le vieillard se mit à marcher de long en large dans la chambre, en proie à toute la fièvre de l'attente, espérant les 5 coups convenus et regardant parfois les fenêtres sombres. Mais il ne voyait rien que la nuit. Il était déjà très tard. Ivan ne dormait pas. Il réfléchissait. Il sentait qu'il perdait toute notion exacte des choses. Il était torturé d'étranges désirs. Ainsi, tout à coup, à plus de minuit, une force invincible poussait à descendre, à ouvrir la porte, à entrer dans l'office pour battre Smerdiakov. Il n'eût pu dire pourquoi, sinon parce qu'il détestait ce domestique. D'autre part, une inexplicable, une vile timidité l'envahissait. Ses forces physiques même l'abandonnaient, la tête lui tournait. Son cœur se serrait, il haïssait tout le monde en cet instant, même Alyosha et même lui-même. Il ne pensait plus à Katerina Ivanovna. Il songeait « Moscou, mais quelle sottise !» Oh, c'est une fanfaronnade, tu n'iras pas. Puis il sortit sur le palier et écouta Fiodor Pavlovitch marcher. Il l'écouta pendant 5 longues minutes, avec une anxiété poignante. Son cœur battait, la respiration lui manquait. Tout s'était tu. Vers 2 heures, Fiodor Pavlovitch s'était couché. Ivan aussi se coucha et s'endormit d'un sommeil pesant, sans rêve. Il se réveilla à 7 heures. En ouvrant les yeux, il se sentit une énergie extraordinaire, se leva vivement, s'habilla et se mit à boucler sa malle. Quand tout fut prêt, c'était 9 heures, Marfa Inagnievna va lui demander s'il prendrait le thé chez lui ou s'il descendrait. Il descendit, presque joyeux, quoiqu'il y eût dans ses gestes quelque chose de fébrile. En saluant son père, il lui demanda de ses nouvelles et lui déclara, sans attendre sa réponse, qu'il partait dans 1 heure pour Moscou. Le vieux ne manifesta aucun étonnement, négligea même de se chagriner par convenance à propos de ce départ. Ah, voilà comme tu es. Tu ne m'as pas dit cela hier, on importe. Veux-tu me faire un plaisir? Les passe-parts de Chervachnia, ça ne fera pas un grand détour. Non, non, permettez, je ne puis. Il y a 80 verstes jusqu'au chemin de fer et le train de Moscou part à 7 heures du soir. J'ai juste le temps. Eh bien, tu auras demain ou après-demain. Aujourd'hui, va, Tchermachnia. Qu'est-ce que cela te fait? Je serai plus tranquille. Si je n'avais pas affaire ici, j'irais moi-même, c'est très pressé. Mais tu sais qu'il se passe ici des choses. Vois-tu, j'ai là-bas un bois à vendre, un marchand offre 11 000 roubles. On m'écrit qu'il ne passera qu'une semaine à Tchermachnia. Tu irais négocier la chose avec lui. Eh bien, écrivez à votre correspondant. Ils s'entendront ensemble. Mais mon correspondant ne sera pas, c'est un pope. Il connaît rien aux affaires. Il faut du nez là-dedans. Le marchand est un coquin. Et moi non plus, je n'entends rien à ces sortes d'affaires. Au contraire, tu peux me servir à merveille. Je vais t'expliquer. Non, non, je n'ai pas le temps, laissez-moi. Ivan, rends-moi service, je m'en souviendrai. Mais vous êtes sans cœur, tous. Qu'est-ce que cela peut te faire un jour ou deux? Où vas-tu? À Moscou, bast. Moscou va pas s'écrouler. J'aurais bien envoyé Alyosha, mais il est trop jeune. Alors vous me poussez vous-même à cette maudite Chervachnia, dit Ivan avec un sourire mauvais. Fiodor Pavlovitch ne remarqua pas ou ne voulut pas remarquer ce jeu de physionomie. Tu y vas, je vais te donner tout de suite un mot d'écrit. Je ne sais pas si j'irai, je déciderai tout cela en route. Pourquoi en route? Allez, décide-toi tout de suite, mon ami. Le vieux était plein de joie. Il écrivit aussitôt un billet, envoya chercher les chevaux, puis on servit à manger. Fiodor Pavlovitch était ordinairement expansif dans ses moments de joie. Mais cette fois, il semblait se contenir. Pas un mot à propos de Dmitri Fiodorovitch, ni à propos du départ de son second fils. Bon, je le gênais, pensait Ivan. En accompagnant son fils, le vieux s'agita comme s'il eût voulu se jeter à son cou. Mais Ivan lui tendit la main pour prévenir cette étreinte. Le vieux comprit. Avec Dieu, répétait-il du haut du perron. Tu reviendras. Je serai toujours heureux de te revoir. Que le Christ soit avec toi. Ivan Fiodorovitch monta en voiture. Adieu, Ivan. Allez, ne garde pas de mauvais souvenirs de moi, lui cria son père pour la dernière fois. Tous sortirent pour les derniers adieux. Smerdiakov, Maria et Fygriflori, Ivan leur donna 10 roubles à chacun, et Smerdiakov accourut pour ranger le tapis. Vois-tu, je pars pour le Chervachnia, dit tout à coup Ivan, avec un sourire inégal. C'est qu'on dit vrai, il y a plaisir à parler avec un homme intelligent, répondit Smerdiakov en le regardant bien en face. La voiture partit. Ivan regardait avec avidité les champs, les collines, les arbres, les bancs de d'oies sauvages dans le ciel clair. Il éprouva un singulier bien-être. La pensée d'Alyosha, puis celle de Katerina Ivanovna lui revinrent. Il sourit doucement, souffla sur ses fantômes chers, et ils s'évanouirent. Plus tard, pensa-t-il. Les chevaux allaient vite. On brûla un relais. Il y a plaisir à parler avec un homme intelligent. Que signifie? Bon, sa respiration devint pénible. Mais pourquoi lui ai-je dit que j'allais à Tchermachnia? Au relais suivant, il descendit Il était encore à 12 vers de Tchermachnia. « N'allons pas dans Tchermachnia, frère, dit-il au Yavlchix. Pourrais-je encore être à 7 heures à la gare ?»« Oh oui, tout juste, faut-il atteler. Attelle, quelqu'un de vous ira-t-il à la ville demain ?»« Oui, Mitri. » »« Ne peux-tu pas, Mitri, me rendre le service d'aller chez mon père, Fiodor Pavlovitch Karamazov, pour lui dire que je ne suis pas allé à Tchermachnia ?» Pourquoi pas? Oh, nous connaissons Fiodor Pavlovitch depuis longtemps. Eh bien, voici un pourboire. Car peut-être oublierait-il de te t'en donner, dit Ivan en riant. Merci, Marine, je ferai votre commission. À 7 heures, Ivan montait en wagon. Pour Moscou. Arrière, tout le passé. Que je n'en entende plus parler. Dans un nouveau monde, vers un nouveau ciel, sans tourner la tête. Mais son âme était pleine de tristesse. Il passa la nuit à réfléchir. Le train volait, et le matin seulement, en arrivant à Moscou, Ivan reprit ses esprits. « Je suis un misérable, se dit-il. » Fiodor Pavlovitch, resté seul, se sentit très heureux. Il était en train de boire du cognac quand se passa une chose très désagréable pour tout le monde et surtout pour lui. Smerdiakov tomba sur l'escalier de la cave. Par bonheur, Marfa Ivanovna l'entendit à temps et reconnut son cri d'épileptique. On le trouva au fond de la cave, dans d'horribles convulsions, l'écume aux lèvres. On appela les voisins et on le retira avec peine. Fiodor Pavlovitch, tout effrayé, aidait lui-même. Le malade ne revenait pas à lui. La crise cessa, puis recommença. C'était comme l'année précédente, lors de sa chute au grenier. On envoya chercher le médecin, qui arriva aussitôt. En examinant le malade, il est conclu que c'était une crise extraordinaire, qu'il y avait du danger, que pour le moment, il n'y comprenait rien, mais que le lendemain matin, si le remède n'avait pas agi, il essaierait d'un autre traitement. On porta le malade à l'office, dans une petite chambre, à côté de celle de Grigori et de Marfa Inakhnievna. Vers le soir, un nouvel ennui. Grigori, indisposé depuis 2 jours, s'alita. Fiodor Pavlovitch but son thé et s'enferma. Il était dans une grande agitation. C'était précisément ce soir-là qu'il comptait sur la visite de Grushenka. Du moins, Smerdiakov lui avait assuré le matin même qu'elle avait promis de venir. Le cœur du vieillard battait violemment. Il allait, çà et là, dans ses pièces vides, écoutant et pillant. Il était sur ses gardes, car Dmitri Fiodorovitch pouvait le surveiller. Et quand Grushenka frapperait à la fenêtre, car Smerdiakov avait assuré à Fiodor Pavlovitch qu'elle connaissait ce signal, il faudrait se hâter d'ouvrir pour ne pas la laisser dans le vestibule, de peur qu'elle prît peur. Il était très inquiet, Fiodor Pavlovitch. Mais jamais il n'avait joui d'une espérance aussi douce, aussi voluptueuse. Ce n'était plus une espérance, il était presque sûr que cette fois, elle viendrait.